Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve avec Louis de Ragnel d'Europe 1, Bruno Jeudy de Paris Match, Gilles Maintré, essayiste, président d'Electis. On va écouter Elisabeth Borne, toujours première ministre, évidemment. Elle parle d'une situation inédite. Elle était en visite en Ile-de-France, dans une usine de gaz. Et effectivement, elle estime que le président Macron n'a pas dressé un ultimatum aux partis politiques en leur demandant de clarifier leur situation. On écoute Elisabeth Borne.
On est dans une situation inédite où le président de la République a pu échanger avec les forces politiques pour entendre finalement jusqu'où les uns et les autres sont prêts à s'engager pour avoir une majorité pour agir au service des Français. Nous attendons une explicitation de ce qu'ils sont prêts à faire d'ici demain, comme le président de la République l'a évoqué. Et puis pour ma part, je vais échanger aujourd'hui et demain avec les présidents de groupes qui sont désormais élus à l'Assemblée nationale. Donc je suis au travail pour trouver le chemin pour nous permettre de continuer à voter des textes à l'Assemblée nationale et donc à répondre aux attentes de nos concitoyens.
Voilà pour Elisabeth Borne. Quelle crédibilité politique a-t-elle, Bruno Jeudy, alors que le président n'a pas cité une seule fois son nom hier dans son discours ?
C'est vrai que Emmanuel Macron lui a vraiment pas rendu service. Alors ça avait déjà mal démarré pour elle parce qu'on sait que c'est un plan B, Elisabeth Borne, si je peux me permettre, puisque bon, maintenant le récit
même un plan F, hein, je crois.
Le récit a été fait d'une Catherine Vautin qui était première ministre le samedi et finalement le président a renoncé sous la pression de ses alliés politiques de macronistes. Et c'est Elisabeth Borne qui a été nommée à Matignon, qui était quand même qui était initialement son premier choix. Mais enfin bon, voilà, passons. Du coup, il avait déjà pas aidé. Là, hier, c'est quand même très surprenant qu'il ne dise pas Madame la Première ministre et je lui ai demandé de consulter les chefs de parti, puisque bon, voilà, donc. Bon, on a l'habitude, hein, il cite rarement ses premiers ministres. Hein. Il a rarement cité Édouard Philippe et rarement cité Jean Castex aussi. Donc ce n'est pas une
surprise. Mais pas du tout, c'est rare.
Mais pas du tout. Et surtout dans la situation où Elisabeth Borne, c'est-à-dire que c'est vrai que le profil d'Elisabeth Borne, si on prend, c'est-à-dire ancienne préfète, haut fonctionnaire, une expérience politique ministérielle, c'est tout, mais pas une expérience politique réelle, même si elle a été élue dimanche députée du Calvados. C'est une expérience politique qui est assez faible au regard de la situation qui demande une grande expérience politique et surtout capable de négocier les compromis, les accords de gré à gré dans l'hémicycle et puis surtout une présence et presque du verbe qu'il va falloir avoir dans l'hémicycle. Donc ça va être très compliqué pour Elisabeth Borne. Là, il ne l'aide pas.
Mais il ne la débranche pas.
Il ne la débranche pas, c'est-à-dire qu'elle a présenté sa démission, il l'a refusée. Donc aujourd'hui, elle tente de trouver ses députés, cette trentaine de députés. J'ajoute quand même qu'elle a... Moi, pour Paris Match, je l'ai suivi, j'ai rencontré beaucoup ces derniers jours. Et j'ai plutôt reconsidéré ma position parce que je pense que d'abord, un, elle est très combative. Moi, je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. Deux, c'est vrai qu'elle a négocié, sous le quinquennat précédent, probablement
les réformes les plus difficiles.
Et surtout, elle a obtenu, par exemple, des commissions mixtes paritaires entre les sénateurs et les députés qu'elle a obtenues. Très peu ont obtenu autant qu'elle. Donc, elle a aussi cette capacité à pouvoir discuter. Elle est assez neutre aussi, c'est-à-dire qu'elle ne va pas déclencher non plus la colère, une colère énorme chez les LR. Elle est capable de discuter quand même aussi avec une partie des socialistes. Bon, ça peut être aussi un atout, mais ce sera sans doute insuffisant dans la situation politique où se retrouve Emmanuel Macron.
Gilles Maintré, il a d'autres solutions, Emmanuel Macron ou pas, pour l'instant ?
Non, mais faut pas se raconter d'histoire. Quand on dit qu'on cherche une trentaine de députés supplémentaires, on voit bien que la seule arithmétique tenable dans la durée, c'est avec les Républicains. On le sait depuis dimanche soir. Donc, quand on dit que Elisabeth Borne n'est pas assez politique, c'est parce que effectivement, elle n'est pas issue de la droite. Elle connaît pas individuellement, elle connaît pas les députés de la droite. Or, c'est avec eux qu'il va falloir discuter texte par texte. Et quand François Bayrou dit aujourd'hui, il la condamne presque. Hein, il dit il faut quelqu'un, un premier ministre ou une première ministre qui soit plus politique.
À son avis. Oui, parce que le portrait qu'il décrit, c'est plutôt Béarnais.
Voilà.
Ce que je veux dire.
Sur son doigt. Donc c'est ça aujourd'hui le problème. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que vraiment on va être condamné à... Est-ce que Emmanuel Macron cherche le blocage? Est-ce que les Républicains cherchent le blocage? C'est pas certain. C'est pas certain. Il y a peut-être un chemin qui soit pas du tout. Alors ça, il y aura aucun accord de coalition, qui sera même pas une espèce de majorité élargie, mais peut-être un accord sur 2-3 réformes qui, une fois de plus, c'était des réformes qui venaient de la droite et qui donneraient un minimum de visibilité. Donc, en tout cas, Christian Jacob, qui est partant, a dit depuis le début que les LR ne seraient pas là pour bloquer les institutions. Donc,
partant, en fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dit on n'est pas là pour bloquer, à part peut-être un peu LFI. Mais globalement, une fois qu'on pose la question, alors on rentre dans le détail. On demande aux députés LR, sur tel texte, qu'est-ce que vous êtes prêts à voter et quels sont les points non négociables. Et sur les points non négociables, à chaque fois, c'est toutes les propositions phares d'Emmanuel Macron. Donc on voit que le discours...
Pas complètement chez les LR, précisément. C'est pour ça que c'est le seul endroit...
Sur l'augmenter, sur les questions de SMIC...
Sur la retraite à 65 ans, sur l'éducation, sur même les éléments de...
qu'il a encore envie de la faire, parce que hier soir, il n'en a pas dit un mot.
Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on voit bien que... Où est-ce qu'on retrouve?
Par principe, vous avez raison, bien sûr.
Donc sur les programmes, le programme le plus proche,
c'est celui des LR.
Bien sûr.
Ça reste les LR. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les LR avaient accusé Emmanuel Macron. Souvenez-vous d'être un président.
Ce que j'observe ensuite sur Elisabeth Borne, et qui est quand même assez frappant, c'est qu'elle est quand même très démonétisée politiquement. Parce que il s'agit non seulement d'essayer de se battre à l'Assemblée nationale, de faire un collectif avec ses ministres, mais aussi d'avoir le soutien de ses propres troupes. Il y a quand même les deux poids lourds de la majorité, François Bayrou, Modem, Édouard Philippe, Horizon, qui la lâche, qui ne la soutiennent pas et qui appellent clairement à un changement de Premier ministre.
Édouard Philippe,
Il le fait à la Philippe. Oui. Donc c'est moins bourru que François Bayrou. Mais honnêtement, je l'ai regardé et écouté avant-hier soir, on comprenait assez clairement qu'il ne la soutenait pas. Enfin, on a vu meilleur soutien pour un membre de la majorité.
Une dichotomie avec François Bayrou qui, franchement, là...
Et François Bayrou,
ce qu'il a fait hier, c'est un désengage dans les...
Il saute avec les deux pieds dans la mare. C'est autre chose.
Et d'ailleurs, au passage, Louis, je trouve que François Bayrou, il se paye Elisabeth Borne sous le mot de techno. Il y en a marre des technos, et je trouve que c'est même une pierre de coup, c'est-à-dire c'est Elisabeth Borne et Alexis Kohler. C'est bien ça que vise François Bayrou. Oui. C'est pas seulement Elisabeth Borne. À travers Elisabeth Borne, j'ai même envie de dire qu'il veut atteindre Alexis Kohler.
Vous avez raison, mais je pense qu'il y a quand même cette volonté à l'intérieur même de la majorité que ça ne fonctionne pas. En vrai, vous appelez des députés, il n'y a personne qui est emballé par Elisabeth Borne, et si ça pouvait changer assez vite, globalement, ça arrangerait à peu près tout le monde. En tout cas, elle ne bénéficie pas... vous avez vu beaucoup de parlementaires depuis une semaine qui disent Elisabeth Borne, elle est géniale, vraiment, on veut que ce soit elle. Parce qu'en fait, tout le monde voit bien la difficulté à laquelle elle est confrontée aussi, avant même d'aller se confronter aux oppositions, c'est d'avoir cette capacité à conduire une majorité avec ces deux fauves, François Bayrou et Édouard Philippe, qui ne lui feront aucun cadeau. On le sait, ça a déjà commencé, mais on sait qu'à l'avenir, ils ne feront aucun cadeau. Ensuite, sur la question de l'accord texte par texte, moi je pense que c'est de fait, de toute façon, ce qui va se passer. Parce que les députés LR, et je rejoins Bruno Jeudy sur ce qu'il disait tout à l'heure, qui ont été élus globalement pour quasiment tous dans une opposition très frontale face à Emmanuel Macron, leurs électeurs ne leur pardonneraient pas de soutenir un peu en cachette Macron. Et du coup, je pense que réellement, le nouveau mode de gouvernement, ça va être de la négociation amendement par amendement. Tout va se terminer très tard, en séance de nuit, on va rappeler des parlementaires. Ça va être épuisant. Nous, on va travailler la nuit.
C'est que, simplement, savoir quel texte va être présenté, il va bien falloir...
Et il faut qu'il dévoile
le calendrier législatif, il va falloir lui-même le discuter avec les oppositions et fait avec LR. Parce que c'est sûr qu'il n'y a qu'un certain nombre de textes qui sont susceptibles de recueillir une majorité. Et donc c'est là que je dis que c'est un tout petit peu plus loin que juste texte par texte, que probablement il y a la possibilité de se mettre d'accord sur un certain calendrier de textes. Et après, effectivement, ça va être amendement par amendement. Les oppositions, LR vont demander à participer à la préparation.
Il y a toujours eu, quelle que soit la couleur politique des gouvernements, des députés de droite qui votaient certains amendements. Proposé par un gouvernement de gauche et inversement. Et même le RN, lors de la dernière législature, hier, ont voté un certain nombre de textes d'Emmanuel Macron, sauf que ce n'était pas assumé comme tel. Et voilà, c'était des députés, on leur a mis conscience, ou peut-être par calcul, j'en sais rien, qui avaient envie de soutenir l'action du gouvernement sur une mesure parce qu'ils considéraient qu'elle était juste.
Bruno Jeudy.
De toute façon, Elisabeth Borne n'a bien compris dimanche soir que c'était compliqué. D'abord, elle a pris la parole très tard. On a bien vu qu'à l'Élysée, ça avait tergiversé sec, que le lundi, elle voulait déjà remettre sa démission le lundi, que en gros, c'était pas le moment. Emmanuel Macron, visiblement, a pris beaucoup de temps à prendre la mesure de ce qui s'était, de ce qui s'était passé. Et de ce qu'on sait, c'est un peu Bayrou et Philippe qui l'ont un peu secoué pour prendre une initiative. Et cette initiative, ça a été la consultation des chefs de parti qui a abouti à sa prise de parole. Parce que même hier soir, quand on l'écoute, dans la deuxième partie de son intervention...
Très courte, d'ailleurs.
Il y a même un côté... bon, c'est pas si grave.
C'est ça. Ouais.
Ça va aller, ça... Comme le pensent les étrangers, d'ailleurs, parce que pour eux, ne pas avoir la majorité absolue, c'est pas grave du tout. Sauf que c'est pas le même système politique. Ça peut marcher si vraiment le président se met en position de compromis. Avec une première ministre qui est la femme de la, de, ou l'homme de la situation. Là, en l'occurrence, le président a l'air de prendre ça en se disant « Bon, ça va le faire, il fait un peu de tactique politique, tout ça. » Et puis, il n'aide pas sa première ministre à rentrer dans le détail tout de suite pour peut-être établir un calendrier, comme il s'agit de montrer. Donc, je trouve qu'on est dans une situation un peu surréaliste, mais au fond d'un système politique, ça vaut aussi pour les oppositions qui... Ben, la cinquième, elle vit sur le fait majoritaire. Et donc, vivre sur une majorité relative, pas une petite majorité relative comme en 1988, où il manquait 14 députés à Michel Rocard. Donc, il avait les hommes, il avait la popularité surtout pour convaincre un coup le PC, un coup les centristes de voter ces textes. Non, là, il n'y a pas de popularité à l'exécutif. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'état de grâce, qu'ils sont déjà très impopulaires, les deux. Qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience politique.
Elle a plongé de 7 points dans le baromètre Paris Match.
7 points cette semaine dans le baromètre Paris Match avant... le week-end électoral, donc je ne vous dis pas les enquêtes qui vont arriver, comment ça va être la dégelée. vous ajoutez à ça qu'il n'y a pas d'expérience politique du côté d'Elisabeth Borne. Là, franchement, on va au-devant d'une assemblée bien paralysée. Hein.
Un tout petit mot, Gilles.
Oui, un tout petit mot. C'est bon, les oppositions, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. En fait, les oppositions, il y a quand même d'un côté l'extrême droite, de l'autre côté, l'extrême gauche, parce qu'on dit ce qu'on veut, tant que le Parti socialiste, les Verts, n'ont pas marqué leur différence avec le programme de la France insoumise, c'est un programme d'extrême gauche et c'est un parti d'extrême gauche. Donc en fait, les oppositions, il y en a une d'opposition, enfin c'est-à-dire, il y en a deux, enfin une et demie.
Mais il y a le Rassemblement national quand
quelques,
même.
Non mais, et puis il y a les quelques socialistes dissidents, enfin je veux dire, c'est ça ce qu'on appelle pudiquement les oppositions. Donc Emmanuel Macron a quand même parlé des fractures hier, je trouve que le mot il l'avait répété. Est quand même fracturé comme jamais. On n'arrête pas de nous dire c'était comme on a imposé la proportionnelle. C'est pas du tout la proportionnelle. Ce sont que des députés élus au scrutin majoritaire. Donc il y a maintenant partie de la France qui a basculé, qui aujourd'hui vote pour des partis extrêmes qu'il faut récupérer. Et il y a peut-être là un terrain d'entente quand même avec les LR.
Petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant sur Europe 1 pour Punchline. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs Louis de Ragnel, Bruno Jeudy, Gilles Matré. Un petit mot de la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale. La bagarre va commencer. On sait que... Alors, expliquez-nous, Gilles Matré, si elle revient obligatoirement...
Poste éminemment important d'abord.
C'est poste éminemment important parce qu'on a accès aux dossiers fiscaux, on peut bloquer des réformes, etc.
On a des moyens de contrôle spécifiques.
Exactement. C'est vraiment un poste stratégique. Oui. Est-ce qu'elle revient automatiquement, cette présidence, au premier groupe de l'opposition politique?
Alors non, Laurence Ferrari. Donc moi j'ai été regardé dans le règlement de l'Assemblée nationale, article 39, alinéa 3, ne peut être élu à la présidence de la commission des finances qu'un député, qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition.
Donc,
c'est tout ce que dit le règlement.
Donc c'est l'enfumage
de Marine Le Pen et du RN je suis le principal groupe d'opposition, donc j'ai le droit. Évidemment, c'est ce qui s'est passé dans les mandatures précédentes, puisque par ailleurs, il y a une pratique qui veut que la majorité ne vote pas. Mais c'est une pratique, c'est pas dans le règlement. Et donc, évidemment, il n'y a que l'opposition qui vote, donc c'est le premier groupe qui obtient la tête, puisque c'est là où il y a le maximum de députés qui votent. Mais ce n'est pas la réalité.
D'accord.
Ce n'est pas la réalité. Bon. Et quand on a même entendu dire à Marc Fesneau que c'était constitutionnel que ça revienne. Bon, on a entendu quand même
Vous énoncez le règlement, c'est vrai.
Oui.
Il faut se souvenir que cette règle existe par le fait de Nicolas Sarkozy qui a imposé cette tradition intégrée dans le règlement.
Comme d'autres traditions d'ailleurs d'équilibre, comme la présidence de la Cour des comptes, comme la présidence de la Cour des comptes à quelqu'un qui venait de l'opposition, ça fait partie des décisions Nicolas Sarkozy de balancer.
Vous aurez observé que la présidence de la Cour des comptes, ça, Emmanuel Macron s'est assis sur cette tradition.
Absolument.
Donc c'était ça. Ensuite, ça a été généralisé aux conseils régionaux qui ont la même pratique. jusqu'à présent, c'était effectivement non pas un groupe d'opposition, mais le premier groupe d'opposition qui désignait en son sein le président. Ça a été le cas pour Didier Migaud, Jérôme Cahuzac, du temps de la présidence Sarkozy. Ensuite, on a eu Gilles Carrez et du temps de la présidence Hollande, puis Éric Woerth du temps de la présidence Macron. Donc aujourd'hui, il me trouve, je pense, franchement, ce serait normal que ce soit le premier groupe
Pas du tout, parce que c'était le premier groupe, parce que les députés d'opposition se réunissent et votent. Il se trouve que jusqu'à présent, le premier groupe d'opposition faisait le maximum de voix, parce qu'il n'avait pas de majorité contre lui.
Mais si aujourd'hui, Bruno Jeudy, la majorité
des députés d'opposition de la Commission des Finances pense qu'il n'est pas légitime ou pas pertinent que le RN soit élu, c'est tout à fait démocratique.
Sur le papier, le premier groupe, c'est Marine, c'est le groupe du Rassemblement National. Il se trouve que la NUPES, c'est 4 groupes.
Oui, mais
et donc s'ils ont une candidature commune, ce qui est en train de se décider au moment où
nous parlons, c'est pas un groupe. Donc on entre déjà dans les arguments.
Si, parce qu'ils ont un intergroupe.
Oui, mais non, mais l'intergroupe n'existe pas dans le règlement. Donc en fait, on entre dans l'argument juridique.
Mais non,
c'est beaucoup plus simple que ça.
Un seul candidat.
Je dis, c'est beaucoup plus simple que ça.
Un seul candidat.
C'est beaucoup plus simple que ça.
Ce sera la NUPES qui aura.
Là, vous rentrez dans un privilège.
Si vous parlez tous les deux en même temps, personne ne comprend rien.
Il y a quand même un contournement d'une règle qui a fonctionné depuis. Mais qui a fonctionné depuis 3 quinquennats.
Oui,
mais il est, je dirais qu'elle
est beaucoup plus
simple. Que la règle est, elle est contournée, mais
non,
avec,
elle n'est pas contournée.
Je pense que demain, cette présidence
va se jouer entre le candidat du Rassemblement National, donc M. Tanguy, qui est
directeur adjoint de campagne,
ancien directeur adjoint de
Marine Le Pen,
proche de Marine Le Pen, donc qui va être le candidat à ce poste pour le Rassemblement National. Et la surprise, c'est que au moment où nous parlons, la NUPES est en train de se mettre d'accord sur un seul candidat.
D'accord.
Donc c'est ça qui va sans doute changer la règle.
Qui pourrait être.
Et qui pourrait être Valérie Rabault, la députée socialiste. Et si c'est le cas, la messe est dite. Ce sera Valérie Rabault qui sera la présidente. Et ça veut dire que les Insoumis acceptent au sein de la NUPES qu'il y ait une seule candidature et que ce soit la socialiste Valérie Rabault.
Et ça rassurera au passage, ça va surprendre peut-être nos auditeurs, Emmanuel Macron, parce qu'il avait proposé à Valérie Rabault, elle avait été testée pour être possiblement première ministre avant que le choix ne se porte vers Elisabeth Borne. Et Valérie Rabault, c'est clairement la gauche de gouvernement. C'est d'ailleurs Éric Woerth, qui était le président de la Commission des Finances, qui était LR à l'époque, s'entendait, avait des très bonnes relations avec elle. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. Moi, juste pour revenir sur le débat impossible...
Je rejoins
plutôt Bruno Jeudy. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que cette NUPES... cette NUPES, en fait, ce qui est dingue, c'est que politiquement, elle n'a pas d'existence, puisque politiquement, il n'y a pas de groupe NUPES. Il y a 4 groupes distincts qui montrent, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu par le passé, une capacité, quand il y a des enjeux extrêmement importants, notamment pour des postes à récupérer, que tous ces députés sont peut-être... capable de s'entendre, simplement voilà, pour prendre une responsabilité. Et donc, face à cette logique-là, effectivement, que ce soit le Rassemblement National ou les Républicains, effectivement, ils n'ont quasiment aucune capacité à combattre, puisque numériquement, ils seront mécaniquement écrasés. La question, et je trouve qu'il y a deux enjeux qui vont se poser demain. Un, c'est est-ce que réellement, donc Marine Le Pen est menacée? Deux, est-ce que menacée pour prendre la présidence de la Commission des Finances, pour que son groupe prenne la présidence de la Commission des Finances. Et la deuxième chose, c'est est-ce que la NUPES est capable de s'entendre là sur un poste? Est-ce que vraiment tous les députés de la NUPES vont voter pour un seul candidat?
C'est un vrai test.
Et ce sera un test d'unité politique, qui sera toujours très fragile, puisque à mon avis, ce sera au gré des circonstances. Il faut quand même savoir que Fabien Roussel tire à boulet rouge sur tous les responsables de la NUPES, et à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est ce qui est fascinant, voilà, et je termine simplement par là, c'est que la gauche est capable, dans ce genre de circonstances, de s'unir, alors que parfois tout les oppose, là où la droite n'y arrive absolument jamais.
Gilles Maitré ?
Non, mais on est en train de créer un problème démocratique là où il n'y en a pas. On est en train de donner des arguments à Marine Le Pen en disant, mais oui, effectivement, il y a une règle, alors qu'il n'y a pas de règle.
Okay,
il y a une
règle que c'est le premier parti d'opposition.
Je crois qu'on a compris votre point de vue.
Du coup, Mais non, mais c'est clair. La règle, c'est qu'on élit. Et si jamais... C'est ça la démocratie. Si une majorité sont contre l'idée que quelqu'un qui est en minorité accède à un poste, c'est mais la démocratie qui ne soit pas.
Je suis pas sûr que la LFI adore Valérie Rabault. Non, mais c'est pour des raisons opportunistes.
Mais justement, on est en train de créer un conflit de légitimité parce qu'on va dire, mais oui, est-ce que la NUPES est un groupe ou pas un groupe? Alors Marine Le Pen va dire, mais non, mais c'est pas un groupe, c'est un intergroupe. Sereinement, je veux dire, il y a une commission, c'est déjà formidable qu'on ait mis dans le règlement que ce soit pas quelqu'un de la majorité. Mm-hmm. Et une fois de plus, c'est grâce à Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est déjà très bien. On va sereinement demain voter et Marine Le Pen n'aura pas de légitimité à dire qu'on lui a volé la commission. Je pense que c'est important de le dire parce qu'elle le dira, mais ce n'est pas la réalité du texte.
Mais si on regarde groupe par groupe, globalement, c'est le premier parti d'opposition.
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, tous les éditorialistes, les commentateurs et même au sein de la NUPES, ils considéraient au lendemain de l'élection législative du deuxième tour que c'était terminé et que Marine Le Pen allait récupérer la présidence de la Commission des Finances, en tout cas son groupe. Et donc, à la faveur de ces accords que seule la gauche est capable de faire, ils vont parvenir peut-être à l'obtenir.
Bruno, lundi, le président sera de retour dans notre pays, hein, après ça, non?
Parce qu'après, il y a le sommet, il sera encore à Munich. Ensuite, il part à Lisbonne et à Madrid, sommet de l'OTAN. Donc, il reviendra mercredi soir à Paris. Il fait juste un petit saut de puce samedi prochain à Paris.
Assez longue.
Mais oui.
Donc, quand il dit « je donne 48 heures aux députés », c'est parce qu'il revient après le sommet de Bruxelles pour repartir en Bavière. Donc, il est là quelques heures entre ces deux
samedi.
Samedi. Et donc, c'est pour ça qu'il a fixé cet ultimatum. Nous, on a appelé ça, on a beaucoup appelé ça un ultimatum de 48 heures, ce qui, à mon avis, déjà est de mauvaise augure par rapport au fait que pour qu'on parvienne à bâtir des compromis, il faut un peu plus de 48 heures.
Donc là, et après, mercredi d'après, une nouvelle séquence va s'enclencher ou le Parlement va démarrer dès lundi
Il y a les élections encore des présidents d'assemblée, présidents des autres commissions. Donc il y a quand même toute une semaine d'installation d'assemblée.
D'accord, ok. Donc quand est-ce qu'ils vont rentrer dans le dur? Quand est-ce qu'ils vont s'occuper des Français
en fait? Ce sera le début juillet. Vous voyez, j'ai fait une petite note avec toutes les dates. Mercredi 29 juin, il y a la réunion des présidents de groupe pour répartir les postes à l'Assemblée nationale. Et ensuite, donc la date d'après, c'est on attend le lundi 4 ou le mardi 5 juillet, peut-être une semaine après, pour le discours de politique générale. Et c'est à ce moment-là que débute la session parlementaire.
Qui le prononce, si c'est Elisabeth Borne ou pas. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être venu ferrailler ce soir avec ardeur sur le thème de cette présidence de la Commission des Finances. Gilles Mintré, Bruno Jeudy, Louis Dragnel. Bonne soirée sur Europe 1. Dans un instant, Mouloud Achour, Verven Underground. Bonne soirée.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.